On donne une boîte de bain de 10. Non, mais de 10, parce qu'on fait les chiffres ronds. Une boîte de 10, c'est pour la démonstration mathématique. Hein. Et puis bon, il avait l'air d'aimer ça. Hein. Et quand on lui dit, tu pourrais pas m'en laisser un, que tu te le donnes, mais là finalement, je prends la route, je prendrais bien avec... Ah non, quand même, j'en ai besoin. Si on réalise que Dieu nous donne, c'est quoi 10% par rapport aux 90% qu'il nous donne? Est-ce que ça pose un problème de parler d'argent ce matin à l'église de Pentecôte de Drummondville? Est-ce que c'est un problème de parler d'argent? Certains vont dire, quand même, attendez là, on est dans une église. On ne parle pas d'argent dans une église. Ah oui? Regardons. Dans le Nouveau Testament, on parle de foi. Est-ce qu'il faut parler de foi dans une église? Oui? Crois au Seigneur Jésus. Eh bien, dans le Nouveau Testament, on a 215 versets qui parlent de foi. Est-ce qu'il faut parler de salut dans une église? Eh bien, dans le Nouveau Testament, on a 218 versets qui parlent du salut. Est-ce qu'il faut parler du retour de Jésus dans une église? Jésus revient bientôt. Oui, on a ça 318 fois. Et concernant l'argent, la gestion, la responsabilité financière, à votre avis, on a combien de versets? J'ai déjà posé la question il y a peut-être 2 ans ou 3 ans, donc vous connaissez la réponse. Non? Vous en souvenez plus? Bon, allez, on va dire que, qui dit mieux? 500, c'est plus. 513, c'est plus. 800, c'est plus. 1000, c'est plus. 1500, c'est plus. 2000, c'est plus. 3800, c'est moins. Il y a en fait 2084 versets, dans le Nouveau Testament, qui parlent d'argent, de gestion, de responsabilité financière. Il y a 215 versets qui parlent de foi et 2084 versets qui parlent d'argent. La question donc est donc celle-ci. Doit-on parler d'argent dans l'Église? Ben, si on ne parle pas d'argent, de responsabilité financière, de gestion, on enlève quelque part 2084 versets du Nouveau Testament. Parce que c'est la Bible elle-même et Jésus lui-même. Par exemple, dans les paraboles de Jésus, sur 38 paraboles, combien de paraboles que Jésus a enseignées parlent de finances? C'est-à-dire, bon, il y a la parabole des talents... La parabole, hein. Alors, sur 38, il y en aurait combien? 5, plus. 15, plus. 21, moins. Il y a 16 paraboles sur 38 qui parlent de finances. Ça en fait, hein? Et on ne peut pas effacer tout ça. Et moi-même, quelque part, en revisitant ces chiffres, je me dis peut-être que j'ai tort de ne pas parler plus souvent de finances dans l'Église. Parce que le Nouveau Testament parle de finances. Le Nouveau Testament et Jésus lui-même nous enseignent par rapport à l'argent. Lisons ensemble dans 1 Timothée chapitre 6, verset 7. 1 Timothée, nous lisons le chapitre 6 à partir du verset 7. Vous avez votre Bible avec vous? Je vous laisse tourner les pages et je vais... En ce qui me concerne, la lire dans la Bible en français courant, et donc vous pouvez comparer peut-être avec votre traduction. Voilà ce que nous lisons dans 1 Timothée chapitre 6, verset 7. « En effet, nous n'avons rien apporté dans ce monde, et nous n'en pouvons rien emporter. Par conséquent, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela doit nous suffire. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. » Ils sont pris au piège par de nombreux désirs insensés et néfastes qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Certains ont eu une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et se sont infligés bien des tourments. Mais toi, homme de Dieu, évite tout cela. recherche la droiture, l'attachement à Dieu, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, car Dieu t'a appelé à la connaître quand tu as prononcé ta belle déclaration de foi en présence de nombreux témoins. Vous savez, quand on lit de tels passages, ben quelque part, il n'y a quasiment rien à rajouter. Ça parle de lui-même, non? Vous avez compris? Attention, celui qui veut s'enrichir, celui qui aime l'argent, eh bien, c'est une racine de toutes sortes de maux. La question qu'on peut se poser, et en reprenant ce que Jésus nous a dit lui-même, la question qu'on peut se poser ce matin, c'est qui est ton maître? Qui est ton maître? Vous vous souvenez, dans Matthieu chapitre 6, verset 24, Jésus dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Ce n'est pas possible de servir deux maîtres. Si vous avez deux maîtres qui vous donnent des ordres différents, ça ne marche plus. Si l'un vous dit blanc et l'autre vous dit noir, qu'allez-vous faire? Si l'un vous dit d'y aller, l'autre vous dit de ne pas y aller, qu'allez-vous faire? Nul ne peut servir deux maîtres qui ont des instructions et des ordres différents. Et Jésus dit, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Et quelqu'un se dit peut-être, c'est qui ça, Mammon? C'est qui celui-là? Il est nouveau dans le circuit. Mammon, c'est le dieu de l'argent. C'est ça ce que ça veut dire à l'époque de Jésus. D'ailleurs, la Bible en français courant a traduit comme ça. Regardez dans la Bible en français courant. Personne ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Dans le langage courant, on dit l'argent est un mauvais maître. Est-ce que l'argent est votre maître? Jésus continue au verset 25 et dit « Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture, de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. » Est-ce qu'il y en a aujourd'hui qui s'inquiètent par rapport à ce qu'ils vont manger à midi en disant « j'ai pas de quoi » Est-ce qu'il y en a qui s'inquiètent par rapport à aux vêtements et à se vêtir pour l'hiver en disant « je n'ai pas de quoi m'acheter pour me vêtir. » Et Jésus dit, ne vous inquiétez pas. La vie est plus importante que la nourriture et le corps plus important que les vêtements, n'est-ce pas? Et il continue ainsi. Regardez les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de récolte dans les greniers, mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Est-ce que vous avez plus de valeur qu'un corbeau qui vous réveille le matin? Qu'un pic-bois qui vient vous achaler de mots. Non? On a plus de valeur. Et le Père les nourrit. Mais vous, vous valez bien plus. Verset 27. Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? Est-ce que ce genre de verset, peut-être certains devraient si c'est dans votre Bible, le souligner en jaune, en rouge, ou peut-être même l'afficher là dans votre cuisine ou n'importe où. Le fait de s'inquiéter n'arrange pas les affaires. C'est pas « je m'inquiète plus fort, donc ça marchera mieux ». C'est pas parce que tu t'inquiètes plus fort que l'argent rentrera mieux. Et Jésus dit « qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie ?» par le souci qu'il se fait. Je dirais, c'est tout le contraire. Et même la science nous montre aujourd'hui que lorsque l'on se fait du souci, on se rend malade. Et que certains même vont attraper toutes sortes de maladies, que ce soit des ulcères jusqu'au cancer, juste à cause des soucis et de l'inquiétude. Et du coup, au lieu que ces soucis nous aident à avoir une meilleure vie, ça vient réduire la durée de notre vie. Mais Jésus continue au verset 28. Et il dit, « Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne se font pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. » Et ça continue. Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu. Alors, ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même, comme votre confiance en lui est faible? Est-ce que nous lui faisons confiance? Est-ce que Jésus nous ferait cette même réflexion ce matin? Que votre foi est bien petite, que votre confiance en lui est faible. Le verset 31 continue. « Ne vous inquiétez donc pas en disant, qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre pour nous habiller? Car ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Cet enseignement est simple, c'est celui de Jésus. Et Jésus nous dit, arrêtez de vous inquiéter pour toutes les choses matérielles de la vie. Faites confiance au Père. Si le Père est capable de prendre soin des oiseaux et des fleurs des champs, à combien plus forte raison il prendra soin de vous? Vous valez plus qu'eux. Ne vous inquiétez pas du lendemain, à chaque jour suffit sa peine. Faites aujourd'hui la part qui est nécessaire, faites aujourd'hui ce que Dieu vous demande et le Père prendra soin de vous dans l'avenir. Vous savez, Moïse était élevé à la cour de Pharaon. Il était là même élevé comme un prince avec tout l'argent des pharaons. Et il y avait en ce temps-là, d'autant plus qu'aujourd'hui, tout un contraste entre celui qui est considéré comme un prince et celui qui est esclave. Et Moïse, lui, était là comme un prince. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, à Hébreux 11, 26, il nous dit que Moïse regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et la Bible en français courant a ainsi traduit, « Il estima qu'être méprisé comme le Messie avait beaucoup plus de valeur que les trésors de l'Égypte, car il gardait les yeux fixés sur la récompense future. Pour lui, les choses à venir avaient beaucoup plus de valeur que tous les trésors d'Égypte. » Et si certains sont capables d'aller faire toute une chasse aux trésors pour récupérer tous les trésors d'Égypte, hein, imaginez Benjamin Gates, qui veut chercher le trésor des pharaons, eh bien, on trouve là, il veut chercher tous les trésors d'Égypte, ça vaut rien pour Moïse. Ça compte pas. Ces montagnes d'or, ces montagnes d'argent, tous ces biens précieux pour lui, ça a peu de valeur par rapport à la récompense future, par rapport à la vie éternelle, par rapport à ce qui l'attend au ciel. Est-ce que nous sommes dans cet état, le même état que Moïse? Ou est-ce que l'argent a un pouvoir sur nous? Qui est notre maître? Nul ne peut servir de maître. Soit on sert Dieu, soit on sert l'argent. Et vous dites, mais comment est-ce qu'on peut savoir? Ben, regardez quelles sont vos décisions de la vie de tous les jours. Quels sont vos choix? Quels sont vos paroles? Quelles sont vos pensées, quels sont vos soucis, quels sont vos tracas? Est-ce que vous faites confiance à Dieu ou vous faites confiance à votre compte en banque? Est-ce que l'argent est un problème? Est-ce que dans le Nouveau Testament, ça pose un problème que d'avoir de l'argent? Dans Luc chapitre 18, verset 24, il y avait cette histoire d'un homme riche qui est venu demander à Jésus qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Et il dit, Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, va dire qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous imaginez un chameau qui passe par le trou d'une aiguille à coudre? Certains disent, non, non, mais il y a un autre sens. Peut-être que l'aiguille, c'est cette porte qu'il y a dans la muraille. Non, non, Jésus parle bien d'un chameau qui passe dans le trou d'une aiguille à coude. La preuve, la réponse des disciples va dire, mais alors, qui peut être sauvé? Et pas seulement les riches. Qui peut être sauvé? Et Jésus répond, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dites-moi, est-ce que vous faites partie des riches? Je vais dire que ça dépend par rapport à qui? Par rapport à la moyenne de la population mondiale. Vous êtes riche. Et vous êtes très riche. Alors peut-être que par rapport à certains quartiers de Manhattan ou de Boston ou de... ou d'Outremont, ou de je ne sais où encore, peut-être vous dites, non, non, là, je suis loin d'être riche, mais par rapport à la moyenne de la population dans le monde, vous êtes très riche. Alors, si vous êtes riche, dites-moi, pour vous, rentrer dans le royaume de Dieu, c'est comme un chameau qui passe par le trou d'une aiguille? Vous n'aimez pas hein, qu'on vous traite de chameau. C'est vrai, c'est pas très adroit de ma part. Mais Jésus nous parle de chameaux aussi. Dans Matthieu, chapitre 23, il dit, « Conducteur aveugle, vous filtrez votre boisson pour en éliminer un moustique, mais vous avalez un chameau. » Vous avez déjà essayé d'avaler un chameau? Il dit, « Lorsque vous buvez, vous avez peur d'avaler le moustique qui flotte au-dessus de l'eau. » Pourquoi il fallait pas toucher un moustique? Parce que la loi disait que si on touchait quelqu'un, un être, un animal qui était mort, on devenait impur. Et ça prenait une semaine pour être purifié à nouveau. Mais alors, si en buvant, j'en profite, si en buvant, on avale un moustique, on devient impur. Et Jésus prend cette image et utilise le chameau comme le personnage ironique de l'histoire en disant, vous buvez pas le moustique, vous filtrez, vous faites tout pour qu'il n'y ait pas de moustique, mais le chameau, vous l'avalez. Bon, avaler un chameau, c'est faut en vouloir, non? On comprend que là, il y a une ironie et que c'est une image que Jésus emploie. Et si Jésus utilise le chameau ici ironiquement, eh bien, c'est la même chose quand il parle des riches. C'est volontairement que Jésus prend un chameau qui passe dans le trou d'une aiguille pour dire « ça ne marche pas ». Quelque chose qui ne passe pas, de la même manière que avaler un chameau, ça ne passe pas. Et la clé d'interprétation, eh bien, on l'a dans Marc chapitre 10, verset 23. On va reprendre ce passage. Quand Jésus dit à ses disciples, « Il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et on a fait la démonstration tout à l'heure que vous avez des richesses. Et donc, pour vous, ça va être difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais la phrase continue. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, il est difficile à ceux qui se confient dans leur richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et ça, ça fait toute une nuance. Le problème, ce n'est pas d'avoir des richesses. Parce que dans la Bible, on trouve des personnes qui avaient des richesses et qui sont rentrées dans le royaume de Dieu. On trouve des femmes qui assistaient Jésus de leurs biens. On trouve Joseph d'Arimathée qui va offrir son tombeau pour qu'on puisse mettre Jésus au tombeau après sa mort. Et c'est le tombeau de la résurrection aussi. Eh bien, on trouve plusieurs qui sont riches et ça pose pas de problème. Mais ce qui pose un problème, c'est de se confier dans ses richesse. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, on en a qui sont riches. On a Abraham qui avait toutes sortes de richesses, qui était riche. On va certainement je le trouve pas sur ma feuille, c'est parce que je le cite plus tard. Et on a des gens qui sont riches. On a Job qui, à la fin, va être encore même plus riche que ce qu'il avait au départ. Et ça pose pas pour Dieu un problème que d'avoir des richesses. Le problème, ce n'est pas d'avoir des richesses. Le problème, c'est de se confier dans ces richesses. De toute façon, vous avez des richesses. Et bien plus que la majeure partie de la population mondiale. Alors, il n'y a pas une malédiction à cause de ces richesses que vous avez. Et même les jeunes qui ont l'impression d'avoir rien, vous avez beaucoup. Il y a beaucoup qui aimeraient avoir vos boucles d'oreilles à 3 dollars. Quelqu'un dit, est-ce qu'il parle de moi là? Non, je parle de personne, rassurez-vous. Mais pour dire que, des fois, il y a des petites affaires qui, pour nous, on dit, ça vaut rien, ça. Mais pour d'autres, c'est tout un trésor. Vous savez, d'être au chaud, d'avoir de quoi manger, nous sommes riches. Mais c'est difficile à ceux qui ont des richesses, non? Pas seulement à ceux... Ce n'est pas le fait d'avoir des richesses qui pose un problème, c'est le fait de se confier. Où est notre espérance? Où est notre foi? Où est notre confiance? Je reviens à la question que Jésus posait tout à l'heure. Qui est notre maître? Est-ce que ce sont les richesses qui sont notre maître? Ou est-ce que c'est Dieu qui est notre maître? Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. On est dans une société qui en veut toujours plus. Est-ce qu'on est capable de se contenter de ce que l'on a? Contentez-vous de ce que vous avez. Ou alors est-ce que vous êtes le premier à faire la révolution, la grève, le piquet de grève, je veux une augmentation. Vous avez déjà vu le pasteur faire grève pour avoir une augmentation? Non. Parce qu'il y a quelque chose qui ne marcherait pas. Nous sommes appelés à nous contenter de ce que nous avons. Et moi, je suis heureux avec ce que j'ai. Et je vous encourage à vivre heureux avec ce que vous avez. Vous avez bien plus que beaucoup. Et même certains envient votre position. Vous enviez peut-être la position d'un autre, mais il y en a d'autres qui envient votre position. Vous savez, quand on sait se contenter de ce qu'on a, ben c'est la clé, une clé du bonheur. Quand on veut toujours ce que les autres ont, on sera toujours malheureux. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura plus que nous. Mais quand on est capable de se contenter de ce qu'on a, en disant « c'est formidable tout ce que j'ai », on peut être qu'heureux. Si tu comptes les bienfaits de Dieu, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Et si tu comptes tout ce que tu as, et tu dis « mais c'est formidable tout ce que j'ai », il y en a, eux, ils comptent tout ce qu'ils n'ont pas. Mais compte plutôt tout ce que tu as, plutôt que de compter tout ce que tu n'as pas. Troisièmement, vous dire ce matin que tout vient de Dieu. C'est Dieu qui donne. Comme cette boîte de donuts qu'on peut recevoir comme ça. C'est Dieu qui donne. Abraham était très riche. Il possédait de grands troupeaux ainsi que beaucoup d'argent et d'or. Il n'avait rien au départ, mais Dieu l'a béni. Il était très riche. Et s'il était très riche, c'est parce que Dieu lui a donné et a fait en sorte qu'il prospère. Et on voit parmi les patriarches comment Dieu intervient pour qu'ils aient tout, qu'ils manquent de rien. Mais leur confiance n'est pas dans leur richesse. Leur confiance est en Dieu. Dans 1 Roi, chapitre 10, verset 21, il est question de Salomon. Salomon était l'un des plus grands rois du royaume d'Israël et il y avait énormément d'or et d'argent au temps de Salomon. Regardez ce qu'il est dit. « Toutes les coupes du roi Salomon étaient en or. » Et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. La maison de la forêt du Liban, c'est la maison de Salomon. Rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas. Il y avait tellement d'or dans la ville que l'argent, c'était du toc. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. L'argent, ça n'intéressait personne. Il y en avait trop. On parle du matériau, de l'argent, là. Les colliers en argent... Faire en or. En argent, il y en a trop, c'est banal. C'est cheap, l'argent. Au temps de Salomon, c'était ça. Tellement il y avait de richesses dans la ville. Et il est dit ensuite, le roi avait en mer des navires de Tarsis avec ceux de Hiram, et tous les 3 ans arrivaient des navires de Tarsis, portaient de l'or, de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Peut-être quelqu'un va dire, de l'or, de l'argent, je veux bien, des singes, chez moi, peut-être moi. Mais en tout cas, c'était signe de richesse. Et le verset 23, « Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. » Salomon n'a pas été simplement le roi le plus grand de la terre à cause de sa sagesse, mais aussi par les richesses. Et le verset 24, « Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. » Et cette richesse que Salomon avait venait de Dieu. Et si Dieu a un problème avec la richesse, pourquoi il enrichit tous ces gens-là? Dieu n'a pas de problème avec la richesse. Donc vous qui êtes riche par rapport à la majeure partie de la population mondiale, ça ne pose pas de problème pour Dieu. Le problème, c'est si nous nous confions dans ces richesses-là. Dans le psaume 119, voilà ce que dit le psalmiste. « La loi que tu as édictée vaut mieux pour moi que des milliers de pièces d'or ou d'argent. » Est-ce qu'on est capable de dire « Amen » à ce genre de paroles en disant ce qu'il y a dans la Bible et la parole de Dieu pour moi a plus de valeur que des milliers de pièces d'or ou d'argent? Si on vous proposait des milliers de pièces d'or ou d'argent contre votre foi, contre la parole de Dieu, en disant, écoute, on te donne des milliers de pièces d'or et d'argent, mais t'arrêtes d'aller à l'église, t'arrêtes de croire en Dieu, t'arrêtes ces choses-là, puis vis avec ta richesse. Quel serait votre choix? Évidemment, là, on dit, ah, je prends la parole de Dieu, je vis pauvre et je vis avec le Seigneur. Ressemblons pas à Pierre qui dit, Seigneur, tous t'abandonnent, mais moi, je ne t'abandonnerai pas. Puis finalement, c'est le premier qui a abandonné. Et disons, honnêtement, ce matin, peut-être que le choix pourrait être difficile, non? Entre la richesse et entre la parole de Dieu. Quand je suis sorti de l'école biblique, je fais l'école biblique des Assemblées de Dieu en France, une église à Annecy a proposé de nous prendre donc en stage pour la toute première fois que je serais pasteur assistant dans une église, et il proposait un demi-salaire au salaire minimum. Alors, il fallait trouver un autre demi-salaire, alors j'ai cherché, puis comme je suis suisse, et puis que là, l'église était à côté de la Suisse, je me suis dit, je vais aller travailler en Suisse, puis en Suisse, avec l'argent qu'on gagne en Suisse, un demi-salaire, ça vaut un salaire en France, donc ça vaudra la peine. Et j'ai trouvé un salaire en Suisse, mais ce n'était pas un demi, c'était un plein. Et je ne veux pas dire d'erreur dans les chiffres, mais c'était à peu près comme quelque chose comme 10 000 francs suisses, soit 40 000 francs français. C'est 10 000 dollars par mois. Et de l'autre côté, un demi-salaire au salaire minimum. Alors on réfléchit. Seigneur, est-ce que tu m'as vraiment appelé? Seigneur, est-ce que je ne peux pas te servir tout en étant informaticien à Genève? Je vais t'aimer pareil? Je vais te servir pareil? Seigneur, écoute, il y a des informaticiens à Genève qui sont des bons chrétiens. Puis c'est peut-être toi qui m'as ouvert une porte là, qui me bénit comme tu as béni Abraham. Non? Vous auriez fait quoi, vous, à ma place? En tout cas, moi, je n'ai pas choisi les milliers de pièces d'or et d'argent, même si c'était en France suisse. Préféré la pauvreté quelque part, mais Dieu nous a bénis. Et si on n'a pas eu le gros salaire, Dieu nous a bénis d'une autre manière. Par exemple, quelqu'un nous a prêté un chalet pendant 2 ans, loyer zéro. Donc on habitait dans la maison, j'allais dire, des princes, alors qu'on était avec la moitié d'un salaire minimum. Et on habitait, imaginez, hein, un petit chalet en bois dans la montagne, vu sur la montagne. C'était à Annecy, c'est là où il va y avoir les Jeux Olympiques dans 4 ans. Il y avait à côté les vaches, là, les pâturages. Tout ça, vous savez, quand on choisit Dieu, on est béni. Et si j'avais choisi l'argent ce jour-là, déjà, je ne serais pas à Drummondville aujourd'hui. Et puis, je ne suis pas sûr que j'aurais été plus heureux. Je ne suis pas sûr que l'argent aurait été un meilleur maître, bien au contraire. Et je ne regrette pas le choix que j'ai fait, mais en ce qui nous concerne, sachons faire confiance à Dieu. Il pourvoit à tous nos besoins. Je vais directement au point 4. Peut-être vous rappeler dans Agé, et on va directement au verset 8, Agée chapitre 2, verset 8, nous dit « L'or et l'argent du monde entier m'appartiennent. » Et ça, c'est dans un oracle de l'Éternel, c'est Dieu qui parle, qui nous rappelle que, vous savez, Dieu n'a que faire de notre or et de notre argent. Tout lui appartient. Vous n'allez pas enrichir Dieu. Tout lui appartient. Dieu ne veut pas vous voler vos trésors, ça lui appartient déjà. Mais alors, on arrive au point 4, c'est quoi la dîme et les offrandes? Pourquoi faut-il parler de dîme et d'offrande? Pas seulement la dîme, mais la Bible parle de dîme et d'offrande. La dîme, ça veut dire quoi? Ça veut dire le dixième. Le dixième de tous nos revenus. Il est dit, vous savez, certains vont dire, oui, mais attendez, là, ça ne marche pas. On n'est pas dans une bonne théologie. Si vous voulez faire des études bibliques avec moi, venez, on va s'amuser. Mais vous dire que certains vont dire, non, mais la Bible, c'est la dîme, c'est l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Et quelqu'un va dire, la dîme, c'est la loi, mais nous sommes sous la grâce. Eh bien, laissez-moi vous dire que ça, c'est le méchant prétexte pour ne pas obéir à la parole de Dieu. Pourquoi? Je prends pour logique celle de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Paul a la même réaction dans l'Épître aux Romains par rapport au fait d'être sauvé par la foi ou d'être sauvé par la loi, et même par rapport à la circoncision qui a lieu avant la loi. Et il va parler d'Abraham, et il va dire, Abraham, c'est avant Moïse, non? C'est donc avant la loi. Et il va dire, si au temps d'Abraham, Dieu lui a imputé la justice, c'est donc pas par la loi, puisque Abraham est en dehors de la loi, puisque ça se passe avant la loi. Et la démonstration de Paul aux Romains en utilisant la justification par la foi d'Abraham, c'est de dire que Abraham n'a pas été justifié par les œuvres de la loi, puisque la loi n'existait pas en ce temps-là. Mais c'est par la foi. Et ce même Abraham, eh bien, on le retrouve dans Genèse chapitre 14, verset 20, où, en présence de Melchisédek, où il est dit, « Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. » On trouve donc la dîme avant la loi. La dîme, ce n'est donc pas un principe de la loi de Moïse, puisque c'était là bien avant, selon la sacrificature de Melchisédek, que l'on retrouve dans Hébreux, où il nous est dit que Jésus a été fait prêtre selon la sacrificature de Melchisédek. Et donc, en donnant par Melchisédek, de la même manière dans le Nouveau Testament, Jésus est... Melchisédek est comme un type de Jésus, du moins que Jésus est selon le mode de sacrificateur de Melchisédek, et la dîme est là. Donc, c'est erroné, mais quelque part, ça arrange certains d'avoir un bon argument pour dire « la dîme ne nous concerne pas ». Bien au contraire, ça nous concerne aujourd'hui encore. Et dans Lévitique, il est dit « toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel, c'est une chose consacrée. » Et ce principe est là aujourd'hui encore. De la même manière que dans l'Ancien Testament, il est dit que Dieu a en horreur la divination, les magiciens, ceux qui pratiquent les conversations avec les morts et toutes ces choses. Dieu a en horreur dans l'Ancien Testament. Oui, mais maintenant on est dans le Nouveau, ça a changé. Non. Si Dieu en avait en horreur dans l'Ancien Testament, il l'a toujours en horreur aujourd'hui. Parce que Dieu ne change pas. Et c'est pareil pour la dîme et les offrandes. D'ailleurs, Jésus va confirmer ces choses. Dans Matthieu chapitre 23, verset 23, il dit « Malheur à vous !» Et il s'adresse ici aux pharisiens, justement aux maîtres de la loi, les experts dans la loi. « Malheur à vous, maîtres de la loi, pharisiens, hypocrites, vous donnez à Dieu le dixième des plantes de la menthe, du fenouil et du cumin. » Ils étaient tellement précis dans leur dîme, que même si leur plante, là, ça poussait, ils coupaient le dixième de la feuille pour donner leur dîme en disant « je donne la dîme de tout ». Il dit « mais vous négligez les enseignements les plus importants de la loi ». Voyez-vous, le problème de la loi, c'est de faire les choses juste par contrainte et obligation, et même de venir dans un extrême, de compter au... Est-ce qu'on doit donner la dîme de la neige que l'on reçoit ? On peut se poser toutes sortes de questions après. Eux, la moindre petite affaire, ils donnaient ça. Mais Jésus dit, tel que la justice, la bonté, la fidélité, c'est pourtant là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Jésus ne dit pas ici, la dîme, ça ne marche plus. Il dit, il faut pratiquer ces choses-là, mais sans négliger la justice, la bonté et la fidélité. Je vous laisse méditer sur Matthieu chapitre 23, verset 23. Vous savez, Jésus dit à la fin, lorsqu'il remonte au ciel, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Il dit « Enseignez-leur à observer. » Et en tant que chrétiens, nous devons enseigner les autres et nous-mêmes être enseignés à observer. À observer, pas simplement à aimer, mais à mettre en pratique aussi. Et à mettre en pratique ce que Dieu nous demande. Et en l'occurrence, dans la dîme et les offrandes. Vous savez, un principe du Nouveau Testament est d'amplifier les principes des 10 commandements, par exemple. Jésus dit, vous avez entendu dire, tu ne tueras pas. Mais moi, je vous dis que si quelqu'un insulte quelqu'un d'autre et puis pense et se met en colère et pense des mauvaises choses contre lui, il a déjà commis le meurtre. Vous avez entendu dire qu'il ne faut pas commettre d'adultère. Mais Jésus dit, si quelqu'un dans sa tête a déjà pensé à convoiter la femme d'un autre, il a déjà commis l'adultère. Et de la même manière, est-ce que cet effet d'amplification fonctionne pour la dîme ? Ben, en tout cas, en lisant simplement le livre des Actes des Apôtres, on voit qu'ils mettaient tout en commun. Et que ce n'était pas un peu, 10%, mais c'est qu'il y avait un élan de générosité. Dans le livre, un passage qu'on cite souvent lorsqu'on parle de dîme, mais on va le lire ce matin dans la Bible en français courant, dans Malachie chapitre 3, verset 8. Je vous réponds, est-il normal de tromper Dieu ? Vous êtes d'accord ? Est-ce que c'est normal de tromper Dieu ? Pourtant, vous me trompez. C'est Dieu qui parle. En quoi me demandez-vous ? Dans le versement de la dîme et dans vos offrandes. On peut tromper Dieu dans le versement de sa dîme et ses offrandes. Vous êtes sous le coup d'une grave malédiction parce que vous me trompez, vous, le peuple tout entier. Apportez donc réellement tout ce que vous devez dans mon temple pour qu'il y ait toujours de la nourriture en réserve. Vous pouvez me mettre à l'épreuve à ce sujet, moi, le Seigneur de l'univers. Vous verrez bien que j'ouvrirai pour vous les vannes du ciel et que je vous comblerai de bienfaits. Est-ce que nous sommes ceux qui trompent le Seigneur dans nos dîmes et nos offrandes ? Laissez-moi vous dire clairement qu'il n'y a pas de police religieuse à l'église de Pentecôte de Drummondville qui va vérifier qui donne quoi. Et peut-être même, et ça va être peut-être paradoxal, mais je vais le dire quand même comme ça, peut-être vous dire qu'à l'église de Pentecôte de Drummondville, on n'a pas de problème d'argent. On est béni, nos comptes sont équilibrés, on arrive à payer nos factures à chaque fin de mois, on paye le gaz, l'électricité, on paye tout ce qu'on doit payer, tout ce qui concerne le ministère, on paye le salaire du pasteur, certains vous diront « c'est pour ça qu'il veut qu'on donne l'argent ». Non, non, il n'y a pas de problème. Et même quelque part, le salaire du pasteur, ça représente 20% des revenus, des dépenses de l'Église. Et je ne prêche pas ici pour recevoir plus d'argent, j'en veux pas plus. Et puis même quelque part, l'Église, peut-être quelqu'un va dire, elle n'en a pas besoin de plus, quelque part, elle peut vivre comme ça, sans en avoir plus. Le problème, ce n'est pas, on en veut plus, donnez-nous votre argent, parce que nous, l'argent, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Et pourquoi alors est-ce que ce matin on parle de donner de l'argent ? Ben c'est pour vous. Pour que vous-même, vous ne soyez pas là sous une condamnation et que vous soyez bénis. Parce que si vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu, comment est-ce que vous pouvez vous attendre ensuite que le Seigneur vous bénisse pleinement dans votre vie ? Vous savez, je faisais référence à comment le Seigneur nous a bénis au début de notre ministère et même après, même là, on a eu toutes sortes de bénédictions merveilleuses, extraordinaires. Mais si on n'avait pas fait le choix, ma femme et moi, de servir Dieu en premier, on n'aurait pas vu ces bénédictions. On n'aurait pas vu ces miracles. Oh, on aurait eu un chèque de paye qui tombe à la fin du mois, c'est tout. Mais on n'aurait pas vu la grandeur de Dieu dans notre vie et sa fidélité dans bien des détails. Et de la même manière pour vous, si vous n'êtes pas fidèle dans vos dîmes et dans vos offrandes, vous passez à côté de bien des bénédictions. Le Seigneur veut vous bénir. Et quelque part, en donnant la dîme et les offrandes, c'est dire « Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je crois que c'est toi qui prends soin de moi. Je crois que c'est toi qui m'as donné tout ce que j'ai. Alors que c'est quoi te redonner 10% de tout ce que tu m'as donné ? Et même ça t'appartient. » Mais je sais que pour certains, c'est difficile en disant « Oui, mais hey, pasteur, ça coûte cher la vie. J'ai des factures à payer. J'ai des frais, j'ai des choses. » Et c'est vrai. Et il y en aura toujours. Et même si on avait plus d'argent, on aurait peut-être encore plus d'impôts à payer, encore plus de choses à payer, plus de ceci à payer. Et ça ne s'arrête pas. Mais c'est parce que je veux votre bien, et je le répète encore, l'Église n'en a pas vraiment besoin. Alors quelqu'un va dire, oui, mais si l'Église n'en a pas vraiment besoin, et puis que le budget de l'Église double ou triple parce que la totalité devient fidèle dans ses dîmes et dans ses offrandes, qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent? Oh, rassurez-vous, on a un comité qui est sage, on ne va pas gaspiller cet argent, on ne va pas le mettre dans un compte en banque en train de rien faire, mais on peut aider des jeunes à aller à l'Institut biblique du Québec encore davantage. On peut aider des œuvres sociales dans la ville. Ne croyez pas que ça ferait du bien dans la ville si on pouvait être là présent. On peut faire plus de ministères. On peut répandre la bonne nouvelle du royaume de Dieu encore d'une manière plus efficace avec toutes sortes de moyens. C'est moi vous dire que l'argent sera pas va pas être inutile, mais va servir au royaume de Dieu. Et donc l'argument, ce n'est pas de dire qu'il n'y en a pas besoin. Le royaume de Dieu, vous savez, il y a besoin de plus, vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas qu'il y a besoin de faire davantage pour ceux qui sont pauvres dans la ville, faire davantage pour ceux qui sont en mission, de faire davantage, même pour les ministères au milieu de nous, pour encourager les jeunes, pour encourager chacun dans les besoins, que ce soit des besoins matériels, mais aussi au niveau de la formation, au niveau de l'engagement pour le Seigneur. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, problème, il n'est pas dans le fait qu'on veut plus d'argent, on n'en veut pas plus. On veut simplement que vous soyez bénis. Mais pour être béni, il faut être fidèle. Et être fidèle, c'est être fidèle dans tous les détails de notre vie. Pas simplement être fidèle en louant le Seigneur, gloire à Dieu si vous l'êtes. Pas seulement être fidèle en lisant la parole de Dieu, pas simplement être fidèle en venant à l'Église, mais être fidèle aussi financièrement. Et ça, c'est votre bénédiction qui en dépend. Et je prie que vous puissiez être fidèles et être généreux. 1 Timothée 6, 17 recommande à ceux qui possèdent les richesses de ce monde de ne pas s'enorgueillir. Dites-leur de ne pas mettre leur espérance dans ces richesses si incertaines, mais en Dieu, qui nous accorde tout avec abondance pour que nous en jouissions. Apprenons à avoir un cœur généreux. Si la dîme, c'est quelque part ce que nous devons à Dieu, il attend de nous qu'on donne la dîme de tous nos revenus. Nous sommes aussi appelés à être généreux, et ça c'est les offrandes. Comprenez que les offrandes, ce n'est pas la dîme. C'est en plus de la dîme. Vous allez dire, oh, ça fait beaucoup tout ça. Vous savez, quand on a à cœur une situation, quand on a pris à cœur Haïti, est-ce qu'on a réfléchi en disant « Waouh, ça va me coûter cher. » Non, on ne va quand même pas donner de l'argent à des malheureux en Haïti alors que moi, je risque de ne pas avoir de dessert si je donne. Je pourrais plus, je vais me priver d'un restaurant si je donne pour Haïti. Là. Non, ça, c'est pas ça la générosité. La générosité, c'est de réaliser qu'au travers de ce que l'on donne, on peut bénir un grand nombre. Vous savez, dans Actes chapitre 3, verset 6, je vais inviter les musiciens à s'approcher. Dans Actes 3, 6, Pierre et Jean au temple disent « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Est-ce qu'on est capable de dire à ceux qui nous entourent « Ce que j'ai, je te le donne. » Non, ce que j'ai, je le garde pour moi. Ce que j'ai, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu, oui. Ce que j'ai, c'est l'évangile de Jésus-Christ, oui. Mais ce que j'ai, c'est tout ce que j'ai aussi. ou je suis prêt à le partager avec un cœur généreux, à le donner. Alors en conclusion, je cite juste Actes chapitre 20, verset 35, qui nous dit, je vous ai montré en tout qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux pauvres, en nous souvenant des mots que le Seigneur Jésus lui-même a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous savez, quand on est avare, quand on aime l'argent, on se fait du mal. Quand on donne et quand on est généreux, non seulement on fait du bien aux autres, mais ça nous procure une joie et un bonheur de dire, Seigneur, merci pour les richesses que tu m'as données et que cet argent puisse servir à ta gloire. Que le Seigneur nous aide à être fidèles dans tous les domaines de notre vie. On prie ensemble. Seigneur, alors que nous sommes dans ta présence ce matin encore, nous disons, apprends-nous à être fidèles, Seigneur. Pas être fidèles dans les choses qui nous arrangent seulement, mais dans les moindres détails. Seigneur, que l'argent ne soit pas pour nous un maître, que ce ne soit pas l'argent qui contrôle nos vies, nos décisions, nos choix, mais c'est toi, Seigneur, qui dois être le centre de notre vie. Seigneur, apprends-nous à être fidèles dans nos dîmes, être capable de réaliser ce que nous avons, c'est toi qui nous l'as donné, et être capable de te donner 10% de tout ce que nous avons reçu. Les donner à toi, Seigneur, au travers de l'Église, c'est à toi qu'on donne ça. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un comité, c'est à toi, Seigneur. Nous voulons être fidèles et reconnaissants pour tout ce que tu nous as donné. Prends-nous à avoir un cœur généreux qui bénit celui qui est pauvre, celui qui est malheureux, celui qui en a tant besoin. Donne-nous de réaliser, Seigneur, que nous avons beaucoup et apprends-nous à nous contenter de ce que nous avons et être satisfaits par tout ce que nous avons. Tu nous as tellement bénis. Alléluia. Est-ce qu'on peut, pour conclure, juste se lever à sa place et de dire, Seigneur, je veux